Il est beau, c'est un passage extraordinaire, un passage que j'aime tout particulièrement dans la parole de Dieu. Tous les chapitres sont inspirés, c'est sûr, mais celui-là l'est tout particulièrement. La femme vertueuse. Proverbe chapitre 31, et pour être juste, on va juste lire un verset qui traite de cette femme vertueuse. Elle est revêtue de force et de dignité. Elle se rit de l'avenir. Amen. Littéralement, c'est cette femme, eh bien, se rit du jour d'après. Oh, l'avenir, c'est un grand sujet d'inquiétude pour nous. L'inquiétude, c'est un grand sujet de trouble pour nous. Et nous sommes tous logés à la même enseigne. Demain nous est inconnu. Je dirais même que l'heure qui va suivre nous est inconnue. Nous ne savons pas ce que nous réserve, eh bien, le Seigneur, nous ne savons pas ce que nous réserve la vie. Ça ne nous appartient pas et finalement, bien souvent, eh bien, nous ne faisons que la subir. Certains envisagent de se marier, mais ils connaissent la date, ils connaissent le jour, ils connaissent l'heure. Mais quelles seront les circonstances qu'il va y avoir autour de ce mariage ? Grande est la question. Et notre avenir parfois nous inquiète, il faut être franc mes frères et sœurs. On a beau avoir le Seigneur dans nos vies, on a beau avoir le Seigneur dans notre cœur, eh bien notre avenir nous inquiète. Notre vie, eh bien, nous le savons, n'est que poussière, n'est que vapeur et les circonstances qui y sont attachées également. Quid de notre avenir familial ? Quel avenir pour mes enfants ? Qu'est-ce que vont devenir mes enfants ? Si vous saviez, pasteur, à quel point ils m'en font baver. Quid de notre vie professionnelle ? Quid de notre avenir sentimental ? Quid de notre avenir spirituel ? Est-ce que je tiendrai simplement le coup avec le Seigneur Jésus ? Je me sens si faible, je me sens si fragile, je me sens finalement eh bien, tellement pris dans un étau en ce moment, est-ce que je pourrais tenir le coup ? Quid de notre santé ? Nous voyons que notre avenir est terriblement incertain, et quelque part ça nous fait peur. Bien sûr, il y a ces paroles de l'évangile de Matthieu que l'on aime serrer contre notre cœur, lorsque Jésus dira « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. » Cette femme a un secret pour être si vertueuse. Mesdames, écoutez bien. Bon, messieurs, ça vous concerne également. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Allez. L'homme qui craint l'Éternel est celui qui sera loué. Notre paix vient de la connaissance que nous avons de notre Dieu. Est-ce que je peux me permettre de dire que notre paix, notre joie ne viennent pas de la prière que l'on fait monter à Dieu ? Ne vient pas du fait que l'on fréquente une église ? Ne vient pas du fait que on ouvre notre Bible tous les jours ? Mais notre paix, notre joie, et finalement, le fait que nous soyons des hommes et des femmes meilleurs un peu plus chaque jour vient du fait que nous connaissons Dieu. Et tous les moyens que je viens de citer ne sont que des moyens et ne sont pas des fins en soi. Cette femme est qualifiée comme vertueuse et elle a cette capacité à se rire de l'avenir tout simplement parce qu'elle connaît Dieu. Non pas en théorie, mais en pratique, et qu'elle a incliné son cœur devant lui. D'autres versions traduisent « Elle sourit en pensant à l'avenir. » C'est votre cas ? Pas toujours le mien. Hein ? « Elle regarde l'avenir avec confiance. » C'est beau ça, on aimerait bien. Hein ? On aimerait bien. La version Summer traduit encore différemment « C'est avec le sourire qu'elle envisage l'avenir. » Seigneur, rends-moi comme cette femme vertueuse. Vous en avez envie ? Seigneur, rends-moi comme cette femme vertueuse. Vous aimeriez vivre cela ? Sourire en pensant à demain ? Ça vous dirait ? Vous aimeriez savoir comment elle va faire ? Eh bien, on va le voir tout simplement en décortiquant quelques passages eh bien, de ce chapitre qui est pour le moins intéressant, tout simplement parce que nous en avons la capacité et nous en avons la possibilité. Première chose qu'il est nécessaire de remarquer, c'est que demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. C'est évident que notre éternité, eh bien, se prépare aujourd'hui. Nous le savons d'ores et déjà. Et pour rire du lendemain, il est nécessaire que nous vivions réellement dans la paix avec Dieu, en paix avec Dieu. C'est-à-dire que le mur d'inimitié qui nous sépare de lui, c'est-à-dire que notre repentance ait été véritable et authentique. C'est une nécessité, c'est sine qua non. Nous ne pouvons pas être en paix, nous ne pouvons pas regarder demain si nous ne sommes pas en paix avec Dieu, si nous n'avons pas fait la paix avec Dieu. C'est la condition de base, c'est le préalable. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin si cela n'est pas fait. À partir du moment où nous n'avons pas fait cette démarche véritable et authentique de dire « Seigneur, je te donne ma vie, hein, je la consacre à ton nom, je te demande pardon pour mes péchés, je crois que tu m'as pardonné, parce que Jésus, eh bien, c'est là la volonté, je m'engage avec toi au travers des eaux du baptême, et véritablement, je veux marcher avec toi jusque dans l'éternité. » Si cette démarche n'est pas faite, nous ne pouvons pas sourire en pensant à l'avenir. Seconde chose, c'est qu'elle fait tout, cette femme, pour prévoir demain. Le verset 18 nous dit que sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle veille à avoir de l'huile durant la nuit et donc durant le jour. Je l'imagine pendant la journée en train de se dire « Est-ce que j'ai suffisamment d'huile dans la lampe ?» Ou la nuit, tout d'un coup se réveillant sur soi en disant « Oh là 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 là, j'ai oublié de mettre de l'huile dans la lampe. Elle va s'éteindre sur le coup de 4 ou 5 heures du matin. » Ça vous fait penser à rien? À cette parabole des 10 vierges? Hein? Dans cette parabole, je le dis souvent, mais l'huile n'est pas le type du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, ça ne s'achète pas. Vous ne pouvez pas aller dans un magasin pour acheter le Saint-Esprit. Hein? Ça saurait sinon. Mais simplement, eh bien, le Saint-Esprit, l'huile ici, symbolise la vigilance que tout enfant de Dieu doit avoir. Et je pense que pour bien envisager demain, ne serait-ce que sur un point de vue spirituel, il est nécessaire que nous conservions toujours cette vigilance, cette capacité à nous demander, Seigneur, si tu revenais maintenant, si tu revenais aujourd'hui, est-ce que j'ai de l'huile dans ma lampe? Remarquez dans cette parabole, j'aime bien le souligner, c'est que les 10 vierges, qu'elles soient sages ou qu'elles soient folles, se sont endormies. Ce qui prouve que, qui que l'on soit, on peut avoir des hauts et on peut avoir des bas, et parfois même on peut s'endormir. Et que nous soyons comme la tsunamite, même endormie, que nous sachions reconnaître la voix de notre bien-aimé qui vient. Le retour de Jésus est proche, il viendra comme un voleur dans la nuit, et quand l'attente nous semble longue, eh bien que notre vigilance ne défaille pas. Seigneur, tiens-moi debout. Seigneur, que lorsque tu reviennes, tu puisses trouver la foi en moi, que tu puisses trouver la foi dans mon cœur, que tu puisses trouver véritablement eh bien, cette communion, que tu puisses trouver cette confiance. Et que je sois compté comme l'un de tes enfants. L'esprit du monde nous voudrait comme désinvolte, mais nous voulons être des hommes et des femmes sérieux. J'ai eu l'occasion de fréquenter des vieux ministères, notamment mon père, qui invitait ses copains à table, etc. Donc j'ai pu écouter certaines conversations. Et ce qui me marquait chez ces hommes et chez ces femmes, c'était le sérieux qu'ils pouvaient avoir par rapport à l'œuvre de Dieu. Le sérieux dans leur vie de prière. Je le dis souvent, mais quand je faisais le mur, et que, quand j'étais jeune, mais les jeunes ne faites surtout pas comme moi, d'accord? Et quand je rentrais à 4h, 5h du matin, parfois dans un sale état, vous savez ce que je voyais en arrivant à la maison? C'était mon père à genoux. C'était mon père à genoux. Et cette image-là, alors que j'étais en bringue, elle me suivait, elle me poursuivait. Je vais rentrer, je vais voir papa à genoux. Je me souviens d'une fois où je suis rentré, et c'était en hiver, pour une raison ou pour une autre, il faisait très froid dans la maison. Et j'ai trouvé mon père et ma mère à genoux sous la table, avec la couverture, de manière à avoir chaud. C'était 3h30 du matin. Et ils priaient. Cette image m'a toujours poursuivi. Parce que dans leur cœur, il y a ce sérieux. Il y avait ce sérieux. Il y avait cette consécration. Et de se dire... Le Seigneur Jésus peut revenir. On peut se rire de l'avenir. On peut se rire du jour qui va suivre. On peut sourire en y pensant. À partir du moment où on fait tout pour être prêt. Cela est valable pour le domaine matériel. Envisager, réfléchir, cela, je le dis souvent, n'est absolument pas incompatible avec la foi. Et quand ma femme a cette manie de préparer ses vêtements la veille. Pourquoi est-ce que tu prépares tes vêtements la veille ? Ben pour être tranquille, comme ça je n'aurai pas à le faire à demain. Hein ? Et moi ça me surprend toujours, mais je me dis que quelquefois elle a raison. Elle a raison. Et de la même manière, les choses que l'on fait aujourd'hui conditionnent celles que l'on fera demain, et celles que l'on fait demain conditionnent celles que l'on fait, enfin sont conditionnées par ce que l'on fera aujourd'hui. Être vigilant. Après, les erreurs viennent, hein, les difficultés viennent, mais il n'en reste pas moins qu'on peut en éviter bon nombre. Seigneur, je peux me rire de l'avenir à partir du moment où je prépare demain en étant vigilant. Préparer demain aujourd'hui, c'est également, on le voit au travers de cette femme vertueuse, c'est qu'elle a réellement une activité spirituelle et physique, je dirais. 31-20, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Cette femme, bien que prise dans ses activités, finalement, elle a une mentalité de servante, elle a une mentalité de serviteur. Et c'est quelque chose qui est marqué chez elle. Elle n'hésite pas, malgré les nombreuses occupations qu'elle peut avoir dans sa maison, à vraiment tendre la main. Et parfois, on peut se poser cette question de dire, Seigneur, comment faire pour te servir ? Comment est-ce que moi, je peux faire pour te servir alors que je suis un simple bipède avec plein de défauts, avec le caractère de ma mère, avec le caractère de mon père, j'ai peut-être une drôle de problème d'implantation capillaire, je ne sais pas beaucoup parler, je ne sais pas faire certaines choses, etc. Mais comment est-ce que je peux te servir ? Le meilleur moyen de servir Dieu, et cette femme l'a compris, c'est de servir les hommes. C'est de servir les hommes. Le meilleur moyen de servir le Seigneur, c'est véritablement de servir ceux qui nous entourent. Et c'est très différent parfois que de faire des grands miracles, vous savez. Vous savez, quand j'étais jeune pasteur, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, on se l'avoue ou on ne se l'avoue pas, on se dit, servir Dieu, c'est vraiment faire des grandes choses. C'est vraiment faire de grandes choses. On s'imagine tous avec des grandes foules devant nous, et puis avec toute la foule qui répond à l'appel, et puis même les morts qui ressuscitent. Et en fait, dans la réalité concrète, on se rend compte que ce que le Seigneur attend de nous, c'est tout simplement d'accompagner, d'aider, et de faire ce que notre main trouve à faire avec la force qu'elle peut avoir. C'est tout. C'est tout. C'est ça, servir Dieu. C'est ça, servir Dieu. C'est pas autre chose, parce que le grand, c'est le Seigneur qui le fait. Le bon, c'est le Seigneur qui le fait, et nous, on fait le reste. Et nous, on fait le reste. Deuxième chose, que, bien sûr, il y a cette portée eschatologique. Notre foi doit de porter du fruit. Ça, c'est sûr. Parce qu'au jour du retour du Seigneur, là-haut, nous serons jugés en fonction de cela. Et il faut que je me dépêche. Aujourd'hui se prépare, demain se prépare aujourd'hui. Elle possède des projets pour demain. Verset 16, il est dit qu'elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait des plantations avec l'argent qu'elle a gagné. Sous-entendu, elle fait des projets et elle réinvestit. C'est la première capitaliste. Ah, c'est dingue ça. C'est la première capitaliste. Allez, dans le domaine spirituel, il en va de même. Tout ce qu'on a reçu a vocation à être réinvesti. Quel texte vous vient l'idée ? La parabole des talents. En bon lecteur averti de la parole de Dieu que vous êtes. Tout ce que je possède, je le réinvestis. Tout ce que le Seigneur a pu me donner, je le redonne, de manière à ce que ça porte du fruit. Et cette femme l'a compris. Elle ne donne pas, elle ne réinvestit pas ce qu'elle n'a pas, mais elle réinvestit ce qui lui a été donné. Elle réfléchit, j'aime bien ce terme. Puis elle achète un champ. J'aime bien cette notion. Demain se prépare aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu serais plus serein et plus en paix si tu préparais ton lendemain. Si plutôt que comme les hommes du temps de Noé qui disaient « mangeons et buvons parce que demain nous mourrons », tu puisses agir comme Noé lui-même en disant « mais je veux me bâtir une arche parce que demain le déluge viendra, demain le jugement viendra ». Demain se prépare aujourd'hui. Seconde chose, c'est que pour bien aimer demain, pour bien préparer demain, il est nécessaire d'aimer aujourd'hui. Vous me comprenez ? Comment bien vivre demain ? Comment envisager sereinement demain si je n'aime pas ce que je vis aujourd'hui, si je n'aime pas ce que je suis aujourd'hui ? Et là, il y a un texte qui vient de suite à notre esprit, c'est le psaume 118, lorsqu'il est dit « Voici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous tous un sujet de joie. » Toutes les journées qui sont faites ont vocation à être des sujets de joie. Toutes. Pourquoi ? Parce que c'est l'Éternel qui les a faites. C'est l'Éternel qui les a faites. C'est-à-dire que pendant les 24 heures que nous allons vivre, moins les heures où nous allons dormir, mais même lorsque nous dormons, hein, le Saint-Esprit travaille en nous, eh bien, le Seigneur a disposé des choses devant nous qui ont vocation à réjouir notre cœur. Chaque jour est un cadeau de Dieu, j'aime le préciser. Chaque jour. Même les dîners de famille. Vous savez, on est dans un monde où on ne savoure plus les bonnes choses, où on ne savoure plus les belles choses. La piété et le contentement, nous dit l'apôtre Pierre, sont une grande source de gain. Seigneur, redonne-nous notre âme d'enfant. Vous savez, celle qui s'émerveillait lorsqu'on voyait un écureuil, lorsqu'on voyait un lapin. Oh, maman, un lapin ! Maintenant, on dit, si ça mange, je pouvais l'avoir dans mon assiette. Mais avant, l'émerveillement nous suffisait à réjouir notre cœur, parce qu'on savait que dans l'assiette, il y avait nos parents qui mettraient le lapin. Seigneur, prends-moi à vivre ce que, à apprécier, à aimer ce que tu me donnes aujourd'hui. Apprends-moi. Apprends-moi à apprécier le câlin de ma fille. Apprends-moi à apprécier cette promenade que je fais avec celle que tu as mise à mes côtés. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et merci pour le pain quotidien que tu nous donnes. Seigneur, je veux aimer ce que je vis aujourd'hui. Même si parfois c'est un petit peu compliqué, même si parfois c'est un petit peu difficile. Même si parfois, eh bien, il y a quelques soucis, quelques tracas qui viennent, ou quelques grosses tempêtes qui viennent déferler sur ma vie. Je veux aimer aujourd'hui. Je veux aimer ce que tu m'as donné. Et je veux être reconnaissant et reconnaissante pour ce que tu as accompli en moi. Seigneur, merci parce que tu as tout fait, merci parce que tu as préparé. Je me souviens de cette visite que je faisais chez une personne âgée. Et puis, c'était la première fois que j'y allais. Elle ne pouvait plus beaucoup marcher. Elle me dit, vous savez ce qui me rend heureux ? Je dis non. Je m'attendais à quelque chose de très profond. C'est de voir mon tilleul. Et devant chez elle, elle avait un grand tilleul qui était là. C'est de voir mon tilleul. Et dans ma tête, elle me dit, elle est complètement malade. Qu'est-ce qui passe par la tête des pasteurs, des fois ? Et en réalité, lorsque j'ai tourné le regard vers ce tilleul, il était effectivement magnifique. Et on est resté là, 10 minutes, à regarder le tilleul. Sans parler. Ce qui, visiblement, a valu plus qu'une prédication. Pour elle, c'était une manière, finalement, de louer son Dieu. Et je l'ai compris qu'au bout de ces 10 minutes-là. Je ne l'ai compris qu'au bout de ces 10 minutes-là. Il y a des choses que l'on ne perçoit pas. Il y a des choses que l'on ne saisit pas. Des choses que l'on ne comprend pas. Seigneur, je veux me réjouir pour ce que tu es. Et je veux me réjouir pour ce que tu fais. Que ton nom soit béni. Allez, 5 minutes. Troisième point. Le premier, c'était quoi ? Bon, on reprend tout donc. Nous allons lire un passage dans Proverbe 31 au verset 25. Je vais me mettre la jante féminine. Vous ne sortez pas tant que j'ai pas le premier point. Demain se prépare aujourd'hui. Merci beaucoup. Vous vous souviendrez que du tilleul, mais c'est déjà une bonne chose. Deuxièmement, pour rire, ce rire de l'avenir, il est nécessaire d'aimer ce que l'on vit aujourd'hui. Et ça, ça passe par de la reconnaissance. Et troisième point, pour bien se rire de l'avenir et pour sourire en pensant demain, il faut avoir réglé son passé. Merci Seigneur pour la croix, lieu où nous pouvons régler notre passé avec toi, où nous pouvons régler nos dettes avec toi. J'aime beaucoup l'image de Jacob qui, pendant 20 ans, va être en exil. Et pendant ces 20 ans, il va vivre des choses pas simples. D'abord, il va tomber amoureux. Et puis finalement, il va se marier, mais pas avec la bonne. Hein, parce qu'il est tombé sur quelqu'un qui est aussi tordu que lui. Et il va retravailler 7 ans qui vont lui paraître comme rien du tout. Qu'est-ce que c'est que l'amour quand même, hein ? Et finalement, il va avoir la bonne. Et là, ensuite, il va encore devoir travailler pour s'enrichir un peu. Et puis là, Dieu, la voix de Dieu va retentir dans son cœur et va lui dire « Écoute, va régler tes affaires avec ton frère Ésaü, Jacob. » On connaît tous le contexte. Il était parti en ayant triché, en ayant menti, en ayant fait des choses pas possibles, en ayant volé, extorqué la bénédiction. Et là, aussi étonnant que cela puisse être, que va faire Jacob ? Il va revenir pour régler son passé. Sur la route, il va s'arrêter dans un lieu qui s'appelle Péniel, ou qu'il appellera plus tard Péniel. Lieu où il va rencontrer l'Éternel, où son nom va changer, où sa vie va changer. Je pense que tout comme, même si on va de l'avant, même si les jours passent, et même s'ils nous poussent vers le futur d'une manière inexorable, il n'en reste pas moins que finalement, on traîne toujours un petit bout de notre passé. Qui parmi nous n'a pas d'Ésaü qui nous attend de quelque part ? As-tu un Ésaü qui t'attend quelque part ? Que tu n'as peut-être pas revu depuis 20 ans, tout comme Jacob, et qui pourtant, a besoin que tu reviennes vers lui. On peut avoir des situations, on peut avoir des moments où effectivement on fuit des situations, on fuit des problèmes, pour X ou Y raison, à tort ou à raison, peu importe. Mais ces choses-là nous reviennent au cœur. C'est un petit peu comme si vous passiez de la peinture sur un mur dans lequel il y a de l'humidité. Qu'est-ce qui se passera ? Pendant 1 an, 2 ans, ce sera bien. Et puis après, ça recommencera. Heureusement, Jésus n'est pas venu pour passer de la peinture. Jésus n'est pas venu simplement pour colmater. Jésus ne nous a pas offert une religion qui masque les trous. Mais Jésus nous a offert une foi véritable et authentique qui enlève les blessures, qui enlève les péchés, qui enlève les fautes et qui manifeste la grâce de Dieu. Jésus n'est pas simplement venu pour nous donner des leçons de morale. C'est bien, c'est pas bien. Jésus est venu pour changer le fond de notre cœur. Là où il y a des sentiments qui sont peut-être présents depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là où il y a de l'amertume qui est présente, là où il y a de la haine qui est présente. Et que l'on a badigeonné derrière avec un pinceau ou un rouleau, avec une couleur de peinture qui s'appelle pardon. Avec une couleur de peinture qui s'appelle oubli. Avec une couleur de peinture qui s'appelle désintérêt. Jésus voit au-delà de la couleur. Jésus voit au-delà de la peinture. Jésus voit au-delà des choses. Quelqu'un parmi nous aurait-il le passé qui suinterait et qui reviendrait à la surface ? Quelqu'un aurait-il parmi nous cette humilité spirituelle qu'est le péché ? Qui quelque part reviendrait dans sa vie. Des blessures d'enfance qui remonteraient à la surface. Parce que le temps colmate. Mais qu'est-ce qu'il colmate mal ? La croix du calvaire reste et demeure debout. L'œuvre de Jésus reste et demeure debout. Le salut qui est en Jésus-Christ est efficace parce qu'il ne traite pas la tâche. Mais il traite l'infiltration qu'il y a. Que le Seigneur nous aide. Mon frère, ma sœur, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas sourire en pensant à l'avenir tant que le passé lui-même n'est pas réglé, de manière spirituelle et de manière authentique. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Pour conclure, je crois que la femme titulaire vertueuse, elle se rit de l'avenir. Parce qu'elle a cette qualité. Il y a bien d'autres choses qui étaient prévues, mais je n'ai pas le temps. Et on peut résumer son attitude par une attitude, par un comportement qui est ô combien sage et que Jésus résume dans l'attitude, dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 6. Lorsque Jésus dira « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. » Cette femme vertueuse, elle ne cherchait qu'une seule chose, c'était le bien de son homme. Alors, de grâce, on passe l'image purement terrienne, d'accord ? Et on saisit la métaphore. Cette femme vertueuse ressemble terriblement à l'Église, finalement. Qui désire qu'une seule chose, c'est que son Dieu soit loué. Et donc, vocation, la vocation de l'Église et de chaque pierre vivante qui la compose, c'est de chercher, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Toutes. Ça change l'avenir, non ? Que le Seigneur nous aide et nous accompagne. Amen.